Éternel est son amour. La maison d'Israël peut le dire. Éternel est son amour. Alléluia. La droite du Seigneur a fait merveille. Sa droite m'a relevé. Non, je ne mourrai pas, je vivrai et publierai l'œuvre de Dieu.
Alléluia.
La pierre rejetée des bâtisseurs est devenue pierre d'angle. C'est là l'œuvre de Dieu. Une merveille à nos yeux.
Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous.
Et avec vos esprits.
Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc.
Gloire à toi, Seigneur.
Le premier jour de la semaine de grand matin, les femmes se rendirent au sépulcre, portant les aromates qu'elles avaient préparés. Elles trouvèrent la pierre roulée sur le côté du tombeau. Elles entrèrent, mais ne trouvèrent pas le corps du Seigneur Jésus. Elles ne savaient que penser. Lorsque deux hommes se présentèrent à elle avec un vêtement éblouissant, saisie de crainte, elle baissait le visage vers le sol. Il leur dit, « Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. » Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié, et que le troisième jour il ressuscite. Alors elles se rappelèrent ces paroles. Revenues du tombeau, elles rapportèrent tout cela aux onze et à tous les autres. C'était Marie, Madeleine, Jeanne et Marie, mère de Jacques. Les autres femmes qui les accompagnaient disait la même chose aux apôtres. Mais ces propos leur semblèrent délirants, et ils ne les croyaient pas. Pierre, cependant, courut au tombeau, mais en se penchant, il ne vit que le linceul. Il s'en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Gloire au Christ, parole éternelle du Dieu vivant.
Gloire à toi, Seigneur.
Gloire au Christ, lumière éternelle du Dieu vivant.
Gloire à toi, Seigneur.
Gloire au Christ, sagesse éternelle du Dieu vivant.
Gloire à toi, Seigneur.
Frères et sœurs, après avoir suivi pendant 40 jours le chemin parfois ardu mais bienfaisant du carême, nous voici, comme les saintes femmes de l'Évangile qui vient d'être proclamée, nous voici à l'aurore, ou comme le dit le texte grec de saint Luc, à l'aube profonde du premier jour des Shabbats, du premier jour de la semaine. Ce jour, il est premier dans tous les sens du terme, au sens historique, au sens théologique, doctrinal, au sens de toute notre vie chrétienne d'aujourd'hui. Du point de vue historique, tout d'abord, nous fêtons la date la plus importante de l'histoire de l'humanité. Elle est inséparable, cette date, d'une part du jour de la nativité du Seigneur, 33 ans auparavant, et d'autre part des trois jours que nous venons de célébrer, dont nous venons de célébrer la mémoire, ce que l'Église nomme en latin le Triduum Pascal. En ce bienheureux jour de la première Pâque chrétienne, l'univers entier a été régénéré d'une manière magnifique et mystérieuse à la fois. Toute la création s'est mise à respirer un air nouveau, un air très parfumé venu d'en haut, et nous savons que les parfums du ciel ont une odeur plus suave encore que celle de la terre. Une sève nouvelle a coulé dans toute la nature. Les femmes et les hommes de ce monde, que Dieu au commencement de toutes choses, nous l'avons entendu dans la Genèse, a institué maître, berger, gardien de toute la création, ont pressenti ce jour-là que rien désormais ne serait plus comme avant. Néanmoins, le soir qui avait précédé, les apôtres, les 12 compagnons que Jésus s'était choisis et qui avaient suivi pendant 3 ans sur les routes de Palestine ce maître merveilleux dont les enseignements incomparables et les miracles prodigieux les avaient plongés dans l'admiration et la louange, se trouvaient soudain plongés, cette fois dans l'affliction et dans la crainte. Malgré tous les avertissements qu'il leur avait prodigués, ils n'avaient pas compris la terrible et douloureuse épreuve qui s'était soudain abattue sur leur maître bien-aimé. Ils en étaient si désespérés qu'ils l'ont tous abandonné, oubliant toutes leurs promesses de le suivre partout où il irait. Seul l'un d'entre eux, le plus jeune, le disciple qu'il aimait, s'est tenu au pied de la croix, aux côtés de sa bienheureuse mère, dont la douleur était incommensurable, et de quelques saintes femmes, la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas et Marie-Madeleine. Pire encore, l'apôtre qu'il avait choisi pour être le chef de cette petite troupe l'avait renié par 3 fois au cours de cette terrible nuit de la Passion. Alors, en cette aube du 3e jour, où sont donc passés les compagnons de Jésus? Où se cachent-ils? Ils se tiennent soigneusement enfermés entre 4 murs par peur des Juifs et des Romains. Mais les saintes femmes, elles, ne se sont pas résignées. L'amour dont leur cœur est enflammé pour leur Seigneur bien-aimé les a conduites à vouloir honorer son corps sans tache. Et se conformant à la tradition, elles ont amené des aromates, gestes que les mages venus d'Orient avaient prophétiquement annoncés en offrant de la myrrhe au bébé de Bethléem, gestes que Nicodème lui-même avait renouvelés avant l'ensevelissement. Certes, à la différence de saint Marc, dont nous avons entendu l'évangile de la résurrection l'an passé, saint Luc ne nous dit pas qu'elle se demandait comment pénétrer dans le tombeau, puisqu'elle savait que l'entrée en était obstruée par une énorme pierre roulée devant. Mais on peut pressentir qu'elle craignait vivement de ne pouvoir le faire. Et pourtant, leur désir d'honorer leur Seigneur était plus fort que leur crainte. Elles étaient désemparées, comme nous le note Luc, mais elles s'étaient tout de même courageusement dirigées vers le jardin où se trouvait le tombeau. Et voici que l'impensable s'était produit. Elles avaient trouvé la pierre roulée sur le côté du tombeau, et plus surprenant encore, lorsqu'elles y étaient entrées, elles n'avaient pas trouvé le corps du Seigneur Jésus. Au lieu de cela, elles s'étaient vues interpellées par 2 personnages, dont le vêtement était, selon le texte grec, brillant comme un astre. Les paroles de ces 2 hommes, comme Luc les appelle, à l'instar de Marc, mais à la différence de Matthieu qui parle d'un ange,
eh bien, ces paroles sont plus stupéfiantes encore que leur aspect. Pourquoi cherchez-vous le vivant parmi les morts? Il n'est pas ici, il est ressuscité. Et ces deux hommes de rappeler aux femmes tout ce que Jésus avait annoncé à propos de sa mort et de sa résurrection. Rappelez-vous ce qu'il vous a dit quand il était encore en Galilée. Il faut que le Fils de l'homme soit livré aux mains des pécheurs, qu'il soit crucifié et que le troisième jour, il ressuscite. L'Esprit Saint, alors, qui est la mémoire de Dieu, rappelle aux femmes toutes ces annonces du Maître. Le choc est si fort qu'elle ne se soucie plus des deux hommes aux vêtements étincelants. Elle ne se préoccupe même plus des aromates dont elles n'ont plus l'utilité. Avec grande sobriété, Luc nous précise seulement qu'elles rapportèrent tout cela aux 11 et à tous les autres. Toutes ces femmes ensemble, et elles ont été nommées aussi, d'autres qui n'étaient pas nommées dans Saint Jean, le sont dans Saint Luc. Il y a Marie-Madeleine, il y a Jeanne et il y a Marie, mère de Jacques. Eh bien, toutes ces femmes ensemble deviennent ainsi ce qui sera affirmé plus tard de Marie-Madeleine seule. Elles méritent toutes d'être appelées apôtres des apôtres. Le contraste est saisissant entre l'unanimité avec laquelle elle délivre la même réjouissante nouvelle et le scepticisme bien masculin avec lequel les apôtres l'accueillent. Pour parler comme les jeunes d'aujourd'hui, ceux-ci se disent « c'est carrément du délire ». Et ils refusent de croire ce qu'elle raconte. Malgré tout, le chef des apôtres décide d'aller sur place vérifier leur dire, et même il court, dit saint Luc. Luc nous fait ensuite comprendre à nouveau, très sobrement, que le spectacle du tombeau vide, avec les linges pliés, plonge Pierre dans une grande perplexité. Il s'en retourna chez lui, tout étonné de ce qui était arrivé. Cet évident manque d'enthousiasme peut nous surprendre. Si nous avions été là, nous aurions sauté de joie, bien sûr, pensons-nous. Mais, et donc, il aurait dû lui sauter de joie aussi avec tous les autres apôtres et disciples, mais ne portons pas un jugement si hâtif. N'oublions pas le caractère stupéfiant, extraordinaire de la résurrection. Croire que le Christ est ressuscité, qu'il est vraiment ressuscité, eh bien, c'est une grâce. C'est un don de la grâce divine. La foi, certes, nous demande une adhésion volontaire, mais même en même temps, elle nous est donnée gratuitement, gracieusement, par notre Dieu riche en miséricorde. Si l'on songe à ce qui se passe aujourd'hui dans notre monde du XXIe siècle, eh bien, nous serons moins critiques à l'égard des doutes des apôtres. C'est pourquoi, tout à l'heure, j'ai dit qu'en ce jour de Pâques était le premier dans tous les sens du terme. Il était le premier il y a 2000 ans, il est le premier aujourd'hui. En effet, combien de gens croient vraiment aujourd'hui que Christ est ressuscité, qu'il est vraiment ressuscité? Jésus s'était lui-même posé la question devant ses disciples. Dans le même évangile de saint Luc, au chapitre 18, verset 8, il déclare « Mais le Fils de l'homme, quand il viendra, trouvera-t-il vraiment la foi sur la terre ?» Dans le verset qui précède, Jésus parle significativement de la patience de Dieu. En effet, à ceux qui s'étaient étonnés que l'Éternel tarde à faire justice, il rétorque « Dieu ne ferait-il pas justice à ses élus qui crient vers lui jour et nuit ?» tandis qu'ils patientent à leur sujet. Quelle patience Dieu a-t-il aujourd'hui à l'égard de nous et de nos contemporains? Et triste nouvelle que les médias ont diffusée largement depuis plusieurs mois, au sujet de notre Église, ne pourrait-elle pas nous faire penser parfois que, comme nous le dit Baruch, nous avons abandonné la source de la sagesse? Baruch le reproche au nom de Dieu, au peuple d'Israël, et il ajoute « Si tu avais suivi les chemins de Dieu, tu vivrais dans la paix pour toujours. » Nous aspirons à cette paix, nous tous qui sommes venus vivre ensemble cette Pâque, nous aspirons à cette paix profonde, cette joie que seul le Seigneur Jésus ressuscité peut nous apporter de la part de son Père. Nous croyons fermement que Dieu est fidèle à ses promesses, à l'alliance nouvelle qu'il a conclue avec le nouvel Israël, en envoyant au milieu de nous son Verbe incarné, en lui demandant de verser son sang pour nous, de mourir pour nous, afin que nous puissions ressusciter avec lui et retrouver ainsi la source de la sagesse. Peut-être que le Seigneur nous demande aussi de ne pas avoir une trop courte vue lorsque nous déplorons, par exemple, certains signes inquiétants, en plus de ceux dont j'ai parlé tout à l'heure, au sujet de notre Église de France. Oui, nous savons que dans notre pays, 3 ou 4% tout au plus de nos compatriotes vont à la messe une fois par mois. Certes encore, le nombre de baptêmes et de mariages à l'Église baisse chaque année. Oui, il est vrai que le nombre de prêtres a été divisé par 2 en 20 ans et que quelques 800 prêtres meurent chaque année alors qu'il n'y a bon an mal an qu'une centaine d'ordinations par an. Mais cela n'empêche pas que le nombre des catholiques dans le monde augmente de 1,3% chaque année, jusqu'à atteindre aujourd'hui le chiffre de 1,3 milliard de baptisés. De plus, lorsque certains suggèrent qu'il faudrait, pour redresser tout ça, convoquer un nouveau concile pour faire suite à Vatican I et Vatican II, ils ne se rendent pas compte que c'est impossible pour une raison de nombre. En effet, il faudrait alors accueillir à Rome plus de 5000 évêques, alors qu'en 1962, au début du concile Vatican II, Jean XXIII n'en avait que 2000. Et puis, pour revenir à la France, il y a de plus en plus de catéchumènes adultes qui reçoivent le baptême en ce temps pascal. Et si certains séminaires doivent fermer par manque de candidats, il en est d'autres, par exemple celui de chez nous, de Toulouse, qui manque de place pour accueillir ceux qui veulent venir. Et voici qu'au moment où j'allais mettre la dernière main à cette homélie, que vous trouvez déjà trop longue, une épreuve inattendue est venue frapper notre Église de France. Lundi soir dernier, à la fin de la messe chrismale de notre diocèse, à laquelle assistaient plus d'un millier de personnes, l'archevêque, avant de nous donner la bénédiction, nous a dit d'un air grave « Je viens d'apprendre que la cathédrale Notre-Dame de Paris est en proie aux flammes. » Un murmure d'étonnement et de tristesse s'est élevé de la foule. Depuis, on l'a vu, les événements se sont précipités. Le président de la République et le gouvernement ont décidé que la restauration devait être achevée dans 5 ans, juste avant les Jeux Olympiques. Et puis, dès le milieu de cette semaine sainte, les dons ont tellement afflué qu'ils atteignaient presque 1 milliard d'euros. Il reste, d'une part, que l'origine de l'incendie demeure mystérieuse, il le restera peut-être, et que d'autre part, nous, chrétiens, devrions nous interroger sur la signification de ce qui est quand même une catastrophe. Il était spectaculaire, l'autre jour, à la télévision, de constater qu'un drone que les pompiers faisaient circuler au-dessus de l'église, de la cathédrale en flammes, nous donnait à voir une croix de feu. Une croix de feu à l'endroit où la toiture était enlevée. De toute façon, mais d'abord, signe positif, nous avons des témoignages qu'un certain nombre de personnes se sont remises à prier à cause de cet événement. Et puis de toute façon, nous sommes invités, nous, par cet événement, dans la prière et dans notre vie, nous sommes invités à ne pas nous décourager, à accueillir plutôt la purification que le Seigneur semble vouloir opérer aujourd'hui en ses brebis, une purification que déjà il avait promise par la bouche d'Ézéchiel d'accomplir dans l'ancien Israël. « Je répandrai sur vous une eau pure et vous serez purifiés. De toutes vos souillures, de toutes vos idoles, je vous purifierai. Je vous donnerai un cœur nouveau. Je mettrai en vous un esprit nouveau. J'ôterai de votre chair le cœur de pierre. Je vous donnerai un cœur de chair. Je mettrai en vous mon esprit. Je ferai que vous marchiez selon mes lois, que vous gardiez mes préceptes et leur soyez fidèles. » Saint Paul, à son tour, vient de nous le rappeler dans la lettre aux Romains que nous avons entendue à l'instant. « Si donc, par le baptême qui nous unit à la mort, nous avons été mis au tombeau avec lui, c'est pour que nous menions une vie nouvelle, nous aussi, comme le Christ, qui par la toute puissance du Père est ressuscité d'entre les morts. » Notre Saint-Père, le pape François, vient pour sa part de le répéter dans sa belle et joyeuse exhortation aux jeunes, qui fait suite au synode de l'automne. Il vit le Christ, notre espérance, et il est la plus belle jeunesse de ce monde. Tout ce qu'il touche devient jeune, devient nouveau, se remplit de vie. Les premières paroles que je voudrais adresser à chacun des jeunes chrétiens sont donc « Il vit et il te veut vivant. Il est en toi, il est avec toi et jamais ne t'abandonne. Tu as beau t'éloigner, le ressuscité est là, t'appelant et t'attendant pour recommencer. Quand tu te sens vieilli par la tristesse, les rancœurs, les peurs, les doutes ou les échecs, il sera toujours là pour te redonner force et espérance. » Cette dernière phrase en particulier montre que le pape ne s'adresse pas ainsi seulement qu'aux jeunes, mais à nous tous, même si nos cheveux sont tout blancs ou tout grisonnants. Remercions le Seigneur, tout d'abord, de la présence parmi nous de plusieurs jeunes. Nous sommes heureux, à nouveau, de la présence de Simon-Pierre, de Claire-Marie, de Sarah. Et puis remercions aussi le Seigneur à chaque Pâques de nous envoyer des nouveaux venus et de nous donner cette joie. Et puis rendons-lui grâce de nous rajeunir à chaque Pâques. Pour certains d'entre nous, ça fait beaucoup de rajeunissement. Même si nous avons des rhumatismes dans nos articulations et d'autres choses suite à l'âge. Frères et sœurs, le Seigneur nous dit, comme à Jérémie, « Jeunes et vieux se réjouiront ensemble. Je changerai leur deuil en allégresse, je les consolerai, je les réjouirai après leur peine. » Nous le savons, malgré tous les efforts des chrétiens, et il y a des efforts vraiment spectaculaires et très discrets et très humbles, l'amour, comme l'a dit Jésus à Marguerite Marie, l'amour n'est pas encore assez aimé. L'amour n'est pas aimé. Alors disons à Jésus que nous l'aimons, au Père que nous l'aimons, à l'Esprit Saint que nous l'aimons, et abandonnons toute crainte, comme les apôtres après Pentecôte, craintifs avant, fort de la force du Saint-Esprit ensuite, et témoignons par nos paroles, nos actes, toute notre vie de cet amour du Christ, de cet amour de la Sainte Trinité que l'Esprit Saint a répandu dans nos cœurs. Avec les yeux de la foi, regardons la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de Dieu. Le Christ est ressuscité, il est vraiment ressuscité. Amen. Alléluia. Amen.